que l'Ancien Testament nous donne, c'est le fait que dans plusieurs passages, nous retrouvons deux personnes qui sont toutes deux appelées Dieu. Alors, dans un même passage, tu as deux Yahvé. D'accord? Yahvé, c'est le mot qu'on a généralement derrière l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alors, tu vas avoir deux fois Yahvé, admettons, dans un même passage. Psaume 45. Ton trône, ô Dieu, était toujours le sceptre de ton règne. Excusez-moi, ton trône, ô Dieu, était toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. C'est Dieu qui a été oint par Dieu. Oh, OK. Où est-ce qu'on est, là? On n'est pas dans des notions de... Parce que certains vont dire ça, là, ils vont dire, mais c'est peut-être Dieu qui parle comme à son serviteur qui a choisi, puis il veut l'élever comme un petit Dieu ou quelque chose comme ça. C'est l'explication des fois que vous pourriez entendre. Non, ça ne tient pas la route. D'accord? C'est Dieu qui parle à Dieu. Donc, à moins qu'il y ait un problème de personnalité, on a un indice ici, là. Oui. Ouais. L'auteur de la lettre aux Hébreux cite ce même passage pour l'appliquer au Christ. D'accord, là, c'est important parce que là, on a un autre indice. Je ne suis plus dans l'Ancien Testament, mais quand même, on s'en va dans l'interprétation du Nouveau Testament, d'un passage de l'Ancien Testament. Et là, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite ce passage-là du psaume 45. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. » Alors, voyez-vous, là, il est en train de dire, ben, on sait c'est qui le Dieu qui a été oint par Dieu. C'est le Fils. C'est assez explicite, là. Difficile de comprendre pourquoi, par exemple, les témoins de Jéhovah ne veulent pas reconnaître la divinité de Christ. D'accord? Donc, vous avez psaume 45, où j'ai deux fois, comme deux personnes désignées sous le nom de Dieu, puis j'ai l'interprétation du psaume 45 par Hébreu, dans le Nouveau Testament. De même, dans le psaume 110, 1, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » C'est David qui parle. OK, suivez-moi ici, là. Si vous êtes juste à votre premier café, ça peut demander un petit peu de concentration. Psaume 110, 1, c'est David qui parle. David est en train de parler de ce que l'Éternel a dit au Seigneur de David. Fait que je vous laisse essayer de trouver qui peut être le Seigneur de David si David, c'est le roi d'Israël. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'options, là. D'accord? C'est Dieu. On est ailleurs, là. On n'est pas parmi les hommes. D'accord? Dans ce passage, comme le révèle Jésus, l'Éternel s'adresse au Seigneur de David, le roi d'Israël. Jésus voit deux personnes distinctes. Parce que Jésus récupère ça dans les évangiles. Alors, j'ai l'auteur de la lettre aux Hébreux qui interprète le psaume 45, j'ai Jésus qui interprète le psaume 110, verset 1. Donc là, dans ce cas-là, c'est des pistes pour voir le Père et le Fils dans l'Ancien Testament dans un même passage. On a la même chose avec le Saint-Esprit. Ésaïe 63, 10. « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Ce passage suggère que l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même sont deux, parce que le Saint-Esprit de Dieu a été attristé. Je vous relis le passage. « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. » L'Esprit de Dieu a été attristé. On a un indice qu'il s'agit d'une personne, pas d'une force, pas d'une énergie. D'accord? Alors, c'est pas juste dans le Nouveau Testament qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament aussi. Et il est devenu leur ennemi, il a combattu pour eux. Donc, vous avez Dieu, puis vous avez son Esprit qui a été attristé. Dans le passage suivant, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel et l'Éternel sont deux, puisque l'Éternel a oint son serviteur en mettant sur lui son Esprit. Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Fait que l'Éternel a oint son serviteur en mettant son Esprit sur lui. Je vous dirais, à moins qu'on parle de, comme, tantôt on va parler de certaines fausses doctrines comme le modalisme, là, mais vous avez Dieu qui est au ciel, qui a oint son serviteur en mettant son esprit sur lui. Si cet esprit-là était comme juste un serviteur de Dieu, tu sais, à la limite, je dirais, moi, j'ai envoyé mon serviteur Jérémie vous s'occuper de vous. Tu sais, peut-être que ça pourrait être ça. Mais dans les propriétés, dans les attributs, les qualités de l'esprit, lorsqu'on parle de l'esprit de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est là. Fait que dans ce passage-là, j'ai l'Éternel qui oint, qui met à part son serviteur en mettant son esprit sur lui. J'ai deux personnes qui sont encore présentes. À moins que l'Éternel ne parle de lui-même à la troisième personne, nous voyons dans le passage suivant que deux personnes sont désignées comme Dieu. Je suis au bas de la page 4, Osée 1, 6 et 7. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ruhama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai pas par l'arc, l'épée. » Fait que c'est Dieu qui dit, « Je vais les sauver par l'Éternel leur Dieu. » À moins que Dieu soit en train de parler de lui, comme si je disais, moi je suis en train de parler à l'Église, puis je dirais, ben je vais vous aider à l'aide de votre pasteur, Yannick. À moins que ce soit ça le phénomène qu'on a ici, là, Dieu est en train de dire qu'il va intervenir par une autre personne de Dieu auprès d'Israël. D'accord? On va terminer le point 2. Puis après ça, je vais prendre quelques questions. C'est bon? Si vous êtes bien mêlés, essayez de vous rappeler une ou deux questions. La révélation plus complète de la Trinité dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous raconte avant tout l'histoire de la venue du Fils de Dieu. Alors, si le Nouveau Testament nous raconte l'histoire de la venue du Fils de Dieu, bien, on va avoir pas mal plus d'informations sur la Trinité. C'est logique, d'accord? C'est dans l'histoire de l'humanité, dans le plan de la rédemption, l'histoire de la rédemption. Toute la Bible, c'est un grand livre d'histoire. Il y a une histoire principale, c'est l'histoire du salut des hommes, la rédemption. Dans cette histoire-là, c'est à ce moment-là que Christ arrive. À partir du moment où lui va arriver, tadam, sur la scène, on va commencer à connaître davantage la Trinité, c'est logique. Comme le Nouveau Testament, c'est l'histoire de la venue du Fils de Dieu, bien on a pas mal plus d'infos là. La révélation de la personne de Christ dans cette partie de la Bible nous éclaire grandement sur la doctrine de la Trinité. Regardons quelques passages où nous trouvons présentes les trois personnes de la Trinité. Alors, là, il y a deux choses que je voudrais vous montrer. Dans le Nouveau Testament, il y a des textes où on a un indice à travers, par exemple, les évangiles. Okay? Lorsque je regarde, admettons, le baptême de Jésus, comme on va le voir, j'ai des indices dans ce qui se passe, des indices très clairs là, de la Trinité. Puis tantôt, ce qu'on va voir aussi, c'est des confessions de foi. Fait que, par exemple, lorsqu'on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne suis pas dans l'histoire, je ne suis pas en train de dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient là dans un moment donné, puis on l'a observé, mais j'ai la confession de foi des apôtres. Jésus nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc il dit « voici ce que vous devez croire ». Puis on va s'entendre que si on baptisait ici dans l'Église au nom de Dieu, de Yannick puis de Stéphane, ça serait quand même assez blasphématoire. D'accord? Fait que ça, c'est la confession de foi. C'est ce qui nous est dit de croire. Donc, dans les passages qu'on regarde, il y a des moments historiques où on voit les trois personnes et il y a ce que les apôtres croient aussi. Matthieu 3, 15 à 17. C'est un des passages classiques pour commencer à regarder la Trinité dans le Nouveau Testament. « Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans ce passage-là, j'ai les trois personnes. J'ai le Fils qui vient de se faire baptiser. J'ai l'Esprit qui descend sur le Fils. Puis j'ai la voix du Père qui se fait entendre. D'accord? Les trois personnes sont présentes. Fait que tout à l'heure, on va parler d'une fausse doctrine qui s'appelle le modalisme. Le modalisme, lui, ce qu'il suggère, c'est que, en réalité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est juste comme trois déguisements différents pour la même personne. C'est comme si moi, j'étais policier, avocat et pasteur, puis selon la journée, vous rencontrez le policier, l'avocat ou le pasteur. Mais là, dans ce cas-là, j'ai les trois personnes qui sont là. Fait qu'à part s'ils s'amusent à changer vite de place, là, ils sont toutes les trois là. D'accord? Ça, c'est des textes qu'on va se servir pour contredire le modalisme. Dans ce passage, nous retrouvons, bien, comme je l'ai dit, le Fils, l'Esprit, le Père en même temps. Le Père qui fait entendre sa voix du ciel. C'est clair que c'est le Père parce qu'il parle de son Fils bien-aimé. Il est en train de se positionner même dans sa relation avec Jésus. Matthieu 28, 19, je l'ai mentionné tantôt. Là, c'est Christ qui nous donne la directive de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on a une confession de foi, là, puis c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Ceux qui ont fait le cours avec moi, connaître Dieu, là, G.I. Packer résumait Dieu dans la perspective chrétienne, puis il disait, le nom de Dieu, pour le chrétien, c'est Père. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'avec la venue de Jésus, il y a une dimension de la personne de Dieu que tu découvres qui n'est jamais explicite comme ça dans l'Ancien Testament. Puis comment est-ce qu'on la découvre, cette dimension-là? C'est dans la relation entre le Fils, Jésus-Christ, et son Père. C'est là que tu découvres la richesse dans la Trinité, parce que le Fils est toujours en train de parler du Père comme son Père, pas juste comme son Dieu. Puis quand le Père intervient en faveur du Fils, il dit, à quelques reprises, il dit, « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » En étudiant l'utilisation des mots « Dieu », je suis au milieu de la page 5, et « Seigneur » dans le Nouveau Testament, nous pouvons observer que le mot « Dieu » désigne généralement le Père et le mot « Seigneur » le Fils. N'est-ce pas, Stéphane? On a eu une belle discussion là-dessus. Stéphane m'avait aidé à réaliser ça. « Ayant ceci à l'esprit, des passages comme celui-ci ont clairement une notion ou une connotation trinitaire. » D'accord? Généralement, dans le Nouveau Testament, le plus souvent, quand on utilise le mot « Dieu », on est en train de parler de Dieu le Père. Et quand on utilise le mot « Seigneur », on est en train de parler de Jésus. Généralement, quand vous allez regarder le contexte, là, ça devient assez évident. Bon, ben ça nous donne des pistes lorsqu'il va être question de Dieu, du Seigneur puis de l'Esprit. Ça va avoir encore une fois une résonance trinitaire. Ça va nous parler de la Trinité. 1 Corinthiens 12, 4 et 6. « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. » Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Quand vous avez des formules comme ça dans le Nouveau Testament, là, c'était le début de credo, des déclarations de foi. Les chrétiens, très très tôt, dans leur histoire, se sont donné des phrases ou des formules qui résumaient leur compréhension des Écritures. Les Écritures sont très très vastes, puis... Si j'arrive, par exemple, moi, devant un témoin de Jéhovah, puis que j'arrive avec une déclaration sur la divinité de Christ, on va savoir tout de suite, tous les deux, qu'on ne lit pas la Bible de la même manière. On ne s'entend pas sur des textes clés. Mais ça ici, ce que vous avez là dans Corinthiens, là, où est-ce que je suis au milieu de la page 5, 1 Corinthiens 12, là, vous avez un début de credo. Là. D'accord? Il y a de la poésie là-dedans, c'est pas juste de l'information. Il y a du style qui est là. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Bien, je veux dire, dons, ministères, opérations, c'est des synonymes. Puis il n'y avait pas besoin de rattacher Esprit avec don, puis Seigneur avec ministère, puis opération avec Dieu. Il n'y a pas de subtilité à trouver là. C'est une déclaration de foi. Il y a un Esprit, un Seigneur, un Dieu. On est dans... un credo trinitaire qui répète la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors quand, parce que je sais qu'il y en a qui, vous venez à l'Évangile, puis là, vous vous dites, ouais, mais c'était-tu comme une notion catholique, cette affaire-là? Parce qu'il y a des textes qui sont troublants, où tu dis, Jésus, il accepte-tu sa divinité? C'est-tu clair? C'est pas clair? Fait que là, tu dis, c'est-tu comme l'Église qui s'est développée une doctrine à travers l'histoire? Non, regardez, la confession de foi était là, le credo, il était là. Il est là dans le Nouveau Testament, il déclare ça. 2 Corinthiens 13, 13. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ça ressemble en titi avec « Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voyez-vous, c'est un credo, c'est une manière de bénir. « Madame Paradis, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pas parce que je suis curé que je fais ça, c'est notre confession de foi. Je veux la bénédiction sur Madame Paradis, pas juste du Fils, de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est bon? OK, alors est-ce que vous avez une ou deux questions sur cette première partie-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait question ou commentaire? Oui, Monique, puis je vais les répéter, François. C'est bon. Parce que je vais en prendre juste une, deux. Merci, François. Oui. Oui. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ça, c'est le modalisme. J'essaie de me souvenir, je vais juste répéter, là, Monique nous parle dans le livre des Actes, lorsqu'il y a des baptêmes au nom de Jésus, puis j'ai l'impression qu'on parle du groupe qui n'avait pas reçu l'Esprit. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça y revient au souvenir? J'ai l'impression que c'est cette situation-là. Là. Mais donc, Monique nous parle de quelques moments dans les Actes où des gens seraient baptisés au nom du Seigneur. Et donc, des gens avec qui elle avait des conversations se disaient, ben voilà, on peut baptiser au nom de Jésus. On n'a pas besoin de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis on n'est pas obligé de voir dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit la Trinité, mais plutôt une version du modalisme qui est Dieu en différents modes. D'accord? Pardon? Ben c'est ça. Là, on regarde les Actes où on peut baptiser au nom du Seigneur, puis Matthieu 28 qui nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu l'as-tu trouvé, Steph? Non? OK. Acte 2.38, on peut tourner vite, vite. Acte 2.38. Pierre lui répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans Acte 2, la raison principale, je vous dirais, c'est parce que Pierre est en train d'annoncer Jésus-Christ. Est-ce que cette phrase-là exclut l'idée qu'au moment du baptême, il soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je pense que ce serait vraiment comprendre le passage de Acte 2, puisque dans Acte 2, Paul est en train de dire à des Juifs, « Attendez un peu, celui que vous venez de crucifier, là, si vous ne passez pas par lui, vous ne rentrez pas. » Et donc, il est en train de préciser quelque chose sur la personne de Christ. Est-ce que ça veut dire qu'au moment où ils ont baptisé, ils n'ont pas nommé le Père, ils n'ont pas nommé l'Esprit? Je ne suis pas sûr qu'on devrait dire ça. Mais une des conclusions, personnellement, que je tire, lorsque j'étudie, par exemple, on avait parlé à un moment donné de la prière, est-ce qu'on prie le Père? Est-ce qu'on prie le Fils? Est-ce qu'on prie l'Esprit? Tout ça. On a comme des directions générales. Et en même temps, il y a d'autres textes où tu dis, « Ah, ben peut-être que dans certaines circonstances, on pourrait prier l'Esprit. » Tu vois que ce n'est pas comme commun, c'est pas majeur, mais c'est pas exclu. Ça serait pas mal de le faire. Mais j'ai tendance à voir ça de la même manière. Généralement, on va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire si... J'utilise pas une formule magique. Oups, non. Fait que j'aurais tendance à le voir comme ça. Mais dans ce contexte-là, ce qui est clair, c'est qu'il est en train d'exposer la personne du Fils à des Juifs qui viennent de le crucifier, qui étaient présents. Ouais, c'était par opposition au baptême général que les gens pouvaient pratiquer. Quand Jean-Baptiste commence à baptiser, il n'a pas inventé une nouvelle pratique culturelle ou religieuse. C'était déjà un signe de consécration ou de repentance de se faire baptiser. Mais c'est ça. Dans le contexte d'Acte 2, bien, c'est la personne de Christ par opposition à... Puis il n'avait pas reçu l'Esprit. Oui. C'est bon. Une autre question? Ça vous va? Oui. Vas-y, David. Oui. Tu veux dire le fait que le fait que Dieu le Fils a eu besoin de recevoir l'Esprit, admettons, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est une possibilité. Mais je te dirais, un élément qui est sûr, qui est absolument certain, c'est que c'était un signe. Okay? Comme lorsque le baptême a été consacré, l'Esprit est venu dans le baptême, je m'excuse, le temple a été consacré, l'Esprit est venu dans le temple. Fait que, une chose qui est absolument sûre, c'est que ce geste-là est un geste public qui devait être vu par certaines personnes pour dire, c'est lui là, c'est lui. Et donc, quand l'Esprit vient sur quelqu'un, de la même manière qu'à chaque fois dans l'Ancien Testament, donc il y a l'élément de la mise à part de Jésus pour son ministère. Puis c'est là qu'il commence son ministère public. D'accord? Vraiment, c'est à partir de ce moment-là. Ça, c'est un élément. Après ça, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé? Je le croirais personnellement. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus n'avait pas l'Esprit avant? Bonne question, j'en doute. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. C'est vraiment comme une mise à part. OK, mais merci Stéphane. Une petite plug pour Christologie. Stéphane, ça le démange. Tu veux-tu, t'as-tu un élément de réponse? Oh, il enseigne au temple à 12 ans, là. Oui, oui. Mais fait que je te dirais, ce qui sort en général dans ce que moi j'ai lu, c'est vraiment cette idée-là de mise à part. C'est sa mise à part publique pour son ministère. C'est comme la bénédiction de Dieu pour dire ça, c'est mon serviteur, puis là maintenant... Suivez-le. T'sais. Dernière intervention, après j'avance. Oui. Oui. Après. OK. Trois affirmations qui résument l'enseignement biblique. Fait qu'on a dit beaucoup de choses, on a vu des pistes, on a vu des indices, on a vu même des choses très claires. Trois affirmations qui résument l'enseignement biblique sur la Trinité. Pardon. Dieu est trois personnes. Chacune de ces personnes est pleinement Dieu. Et il y a un seul Dieu. Si vous n'arrivez pas à mettre tout ça ensemble dans votre tête, vous êtes normaux. D'accord? C'est normal. Mais humblement, on s'incline devant les Écritures et on dit, c'est comme ça. T'sais? Je ne comprends pas encore tout à fait mon épouse, mais quand elle me dit, Yannick, crois-moi, c'est ça que je vis, humblement, je dis, tu te comprends mieux que moi-même, c'est correct. Fait que devant Dieu, je suis prêt à être un peu plus humble encore. Donc, Dieu est trois personnes. Le fait que Dieu soit trois personnes signifie simplement que le Père n'est pas le Fils ni l'Esprit. Excusez-moi, je vais lire la formule, ça va être plus simple. Le Père n'est pas le Fils ni l'Esprit. Le Fils n'est pas le Père ni l'Esprit. L'Esprit n'est pas le Père ni le Fils. C'est trois personnes distinctes, d'accord, qui forment un seul Dieu. C'est là que ça se complique. Quelques passages vite, par exemple 1 Jean 1:1-2, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Je m'excuse concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ouais, j'ai pas cité le bon texte, c'était Jean 1 qu'il fallait que je cite, puis j'ai mis 1 Jean, d'accord? Dans Jean 1, je m'excuse, je suis un petit peu fatigué. Jean 1:1, quelqu'un qui peut me citer? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous avez une distinction. Puis quand on arrive au verset 14, cette parole-là, on voit très bien que c'est le Fils, d'accord? Alors au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on a une distinction, puis en même temps, une même personne, un même être, l'être de Dieu. Alors faites juste une correction, c'est pas 1 Jean, c'est Jean 1, 1 et 2. Puis après ça, le verset 14. Dans Jean 14, 26, ce sont trois personnes distinctes que nous retrouvons. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous avez le Père, vous avez l'Esprit Saint et vous avez Christ. Et ces trois personnes-là font des actions. C'est pas juste une force. Le Consolateur, l'Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner. C'est un enseignant. Le Père va envoyer l'Esprit. Et c'est Christ qui nous avait enseigné toutes ces choses-là. D'accord? C'est lui qui était venu qui nous avait enseigné. Jean 16, 7, nous observons une distinction franche entre l'Esprit et le Fils. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Il n'est pas allé changer de costume. Il est parti pour nous envoyer le Fils. Ce n'est pas, Jésus qui part puis qui revient sous une autre forme. D'accord? Non. Je m'excuse. Linda, tu viendras me voir après. Où suis-je? On va aller tout de suite au point 2. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu. Premièrement, le Père est pleinement Dieu. Je ne m'étirerai pas trop sur le sujet. Vous êtes sûrement d'accord pour dire que le Père est pleinement Dieu. D'accord? Deuxièmement, le Fils est pleinement Dieu. Alors, c'est là que ça achoppe pour plusieurs. Et on va passer un dimanche matin juste sur la Christologie. Puis si vous voulez aller plus loin, vous ferez le cours avec Stéphane. Vous allez passer 16 ou 20 semaines à peu près juste sur la Christologie. Mais quand même, on va revenir davantage dessus. Mais bon, Jean 1, 1 à 4, d'accord? Évidemment, là, au commencement était la parole de Dieu. C'est ça que je voulais citer tantôt. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Fait que si jamais là, vous n'avez pas été équipé pour répondre à l'argument des témoins de Jéhovah sur la question du petit Dieu ou quelque chose comme ça, vous viendrez nous voir. D'accord? C'est assez simple à mettre de côté comme argument. Là. Jean 20, 28 à 31, évidemment, c'est un passage très, très, très fort. Soit que Jésus est d'accord, soit que Jésus a manqué le commentaire de Thomas, ou soit que Jésus accepte les blasphèmes. On n'a pas beaucoup d'options. Jean 20, 28 à 31, c'est la déclaration de foi de Thomas. Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence. Là, c'est important. Suivez ici la partie du verset 30. C'est un commentaire de l'auteur. On revient dans la narration. Et Jean dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne seront pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce commentaire-là de Jean est tout de suite après la déclaration de foi de Thomas. Thomas s'incline devant Jésus et dit, mon Seigneur et mon Dieu. Puis là, Jean nous dit, tout ça a été écrit pour que vous compreniez c'est qui Jésus. D'accord? C'est important. Alors, il y a la déclaration de foi de Thomas. Il y a le fait que Jésus ne le contredit pas. Il accepte cet acte-là qui, si je dis, si c'était pas vrai, c'est un blasphème incroyable qu'il vient de faire là. Et puis, Jean nous dit, ça a été écrit pour que vous catchiez c'est qui ce gars-là. Là? D'accord? Fait que, relisez Thomas jusqu'à temps que vous compreniez. Là, je l'ai mis là pour une raison. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Je suis à la page 7. Dans Actes 5, 3 et 4, Pierre lui dit, ça c'est important, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Il vient de dire qu'il a menti au Saint-Esprit. Il a menti à Dieu. D'accord? 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, moi, je suis le temple de Dieu, puis Dieu le Père est au ciel. Je suis le temple de Dieu. Qu'est-ce qui habite en moi? Mais c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que je suis le temple de Dieu, parce que Dieu habite en moi par son Esprit. L'Esprit est Dieu. Si la Bible ne présentait que deux affirmations, c'est-à-dire que Dieu est en trois personnes et que chaque personne est pleinement Dieu, notre logique n'éprouverait aucune difficulté à accepter cela. Mais voilà, la Bible nous dit qu'il y a aussi un seul Dieu. D'accord? Trois déclarations. Si c'était juste les deux premières déclarations, ça va assez bien, on est capable de suivre. Lorsqu'on met la troisième, c'est là que ça se complique dans notre compréhension. En théologie, nous dirons que les trois personnes de la Trinité partagent une même essence. Donc, ils sont de même nature, une même nature essentielle. Dieu n'est qu'un seul être. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Quelques textes rapidement. Deutéronome 6, 4 et 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors, il y a un seul Dieu. Pardon. 1 Timothée 2, 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, vous voyez, là, ça commence à se compliquer parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Ça aurait été comme plus simple pour nous s'il avait dit « il y a un seul Dieu sous trois formes ». D'accord? Mais c'est pas ça, il y a trois personnes. Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. » Alors, devant ces trois affirmations que nous présente la Bible, aucune explication simpliste ne fera. Vous comprendrez que cette doctrine a été au cœur de bien des débats et des attaques à travers l'histoire de l'Église. Et là, je vous donne deux fausses doctrines essentiellement qui ont fait pas mal ont fait couler beaucoup d'encre à travers l'histoire de l'Église. Le modalisme niait la première affirmation et prétendait qu'il n'y avait qu'une personne qui se présentait sous trois différentes formes. Quand le modalisme, ce qu'il dit, c'est Dieu change de déguisement. En gros, c'est ça. Il fait juste comme se déplacer puis apparaître sous différentes formes. C'est un barbe à papa qui peut changer de forme. OK, les barbes à papa, vous ne connaissez pas ça. Vous allez voir ça sur YouTube, les barbes à papa. Je m'excuse, je cherche mon autre. Oui, l'arianisme. L'arianisme qui a fait pas mal plus de ravages, puis dans un sens, les témoins de Jéhovah, c'est des héritiers moraux de l'arianisme. L'arianisme, quant à lui, prétendait simplement que certaines de ces trois personnes ne sont pas en fait pleinement Dieu. Arius refusait la divinité de Christ. Cette hérésie qui persiste encore de nos jours dans certains milieux a été aussi vivement rejetée très tôt par l'Église. Ça serait plus simple pour notre logique de dire que Jésus n'est pas Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas ce que les Écritures disent. Donc, on préfère garder un peu d'humilité puis juste essayer de comprendre qui il est. Et c'est une des faiblesses. Quand vous parlez, par exemple, avec des témoins de Jéhovah, ils ont un système logique et Dieu s'explique avec des équations mathématiques, pratiquement. Et régulièrement, quand vous rencontrez des gens qui ont une théologie où ils ont un système parfait puis toutes les pièces du puzzle tombent dans des places, là, en général, à un certain moment donné dans le processus, ça dérape, puis on ne veut pas faire face à certains passages des Écritures. Au lieu de garder un peu d'humilité, puis de dire, ben, il y a un mystère ici, là. C'est pour ça que je vous disais, en théologie, on s'avance dans un océan, on essaie de répondre à la question, mais qui est Dieu? À quoi ça ressemble, Dieu? C'est qui? Ça demande de l'humilité. Puis quand vous rencontrez des gens comme les témoins de Jéhovah qui ont un système où ils expliquent tout, là, ils ont une explication pour tout. Toutes les pièces du puzzle ont été démêlées, là. D'abord, les Écritures disent elles-mêmes qu'on ne les mettra pas toutes en place avant que le Seigneur revienne. Mais généralement, vous allez trouver des places où, OK, là il faut qu'il déforme des textes pour pouvoir les faire rentrer dans le système. Par exemple, Jean 1:1, moi j'ai dans ma bibliothèque un interlinéaire grec-français dans lequel les témoins, c'est un interlinéaire grec-français témoin de Jéhovah, d'accord? Dans lequel, je veux dire, Dieu a un grand D parce que le traducteur reconnaît que c'est ça qu'il faut mettre là. Donc, j'ai des documents témoins de Jéhovah qui nous disent ça. Mais éventuellement, les témoins de Jéhovah, ils rencontraient de l'opposition, ils se rendaient compte, ouais, ça ne rentre pas dans le système, prochaine édition, on corrige ça, cette affaire-là. D'accord? Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Fait que les systèmes parfaits, au lieu de juste de reconnaître qu'il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, ça conduit vers des hérésies. Enfin, nier la troisième affirmation reviendrait à une forme de trithéisme qui est clairement contraire à la parole de Dieu. On va continuer quelques minutes. L'importance de la doctrine de la Trinité, parce qu'on peut être tenté devant des questions difficiles comme ça de dire simplement, c'est compliqué, ça divise. Tu sais, je veux dire, par exemple, les témoins de Jéhovah aiment Jésus. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Jésus, ils ont beaucoup de respect pour Jésus, mais ils n'ont pas le respect qu'ils lui doivent. Alors, certains seraient tentés de dire, ouais, mais pourquoi on se divise sur des choses comme ça? Est-ce que ce n'est pas un peu secondaire? Dieu aurait mis le mot Trinité dans la Bible si ça n'avait pas été secondaire. Le mot Trinité n'est pas là, donc c'est secondaire. Pourquoi est-ce qu'on se diviserait là-dessus? Notre compréhension du Dieu qui s'est dévoilé se repose en bonne partie sur cette doctrine-là. D'accord, le but de la théologie, c'est de connaître Dieu. C'est ça notre objectif. Mais si j'accepte pas comment il s'est révélé à moi, même si c'est difficile à comprendre, je ne le rencontrerai pas, ce Dieu-là. Je vais être en train d'adorer un autre Dieu. Quand je parle avec des témoins de Jéhovah et je vois à quel point ils ont rejeté la divinité de Christ, et donc le rôle fondamental de Christ, moi, personnellement, je ne parle pas avec des gens qui adorent le même Dieu que moi. Parce que quelqu'un qui méprise le Fils, le Père, il a dit, ça ira pas bien, toi puis moi. D'accord? Donc, ce n'est pas des questions secondaires. De plus, l'expiation et la justification accomplies par le sacrifice de Jésus-Christ est d'autant plus certain que ce n'est pas qu'un homme qui s'est offert en sacrifice, mais c'est Dieu le Fils qui est venu. Ça change toute ta perspective et ta compréhension du salut quand tu réalises que ce n'est pas juste un gars correct, c'est un gars qui n'a pas péché. Non, c'est Dieu le Fils qui est venu s'offrir en sacrifice. Quand tu t'en vas dans le drame que citait tantôt Jérémie, lorsque Christ s'écrit et dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quand tu as lu avant Jean, puis tu te rends compte que la communion entre le Père et le Fils est absolument parfaite. Là. Bien, si c'est juste un homme, la gloire n'est pas la même. Ce n'est pas aussi glorieux et extraordinaire de comprendre le sacrifice que Christ a fait. Mais quand tu arrives à la croix et tu l'entends, puis il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est la communion éternelle de la Trinité là, qui est attaquée, qui est brisée pour mon salut à moi. Troisièmement, la parole de Dieu nous pousse à de nombreuses reprises à adorer le Fils et à le prier. C'est un blasphème s'il n'est pas Dieu. D'accord? Alors lisez l'Apocalypse, puis regardez la place du Fils, la place de l'agneau. S'il n'est pas Dieu, je veux dire, on passe notre temps à blasphémer. Là. Fait que ce n'est pas des questions simples. Ce n'est pas des questions secondaires, c'est-à-dire. Quelles sont les différences entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Les personnes de la Trinité ont des fonctions principales différentes dans leur relation avec le monde. On voit des fonctions différentes chez les trois personnes de la Trinité au moment de la création, par exemple. Tu as le Père qui est présent. Le Fils, c'est la parole. Jean nous aide à comprendre ce qui se passe là dans Genèse 1. Mais c'est à travers la parole éternelle de Dieu. C'est lui qui exécute les décrets divins. D'accord? C'est comme si Dieu conçoit le plan, donne les directives, le Fils est en train de les exécuter ici, et l'Esprit de Dieu était présent, se mouvant au-dessus des eaux, manifestant la présence immédiate de Dieu dans sa création. Dans l'œuvre de rédemption, c'est beaucoup plus clair encore, dans l'œuvre du salut. Le rôle différent des trois personnes de la Trinité. Le Père a conçu le plan de rédemption et envoyé son Fils dans le monde. Le Fils a obéi au Père et a accompli la rédemption pour nous. Dieu le Père n'est pas mort pour nos péchés, ni Dieu le Saint-Esprit. C'est le Fils qui a accompli pour nous cette œuvre particulière. Et après que Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit a envoyé par le Père, et le Fils pour nous appliquer la rédemption. C'est l'Esprit qui vient faire cette œuvre-là de régénération, nous donner un cœur nouveau. C'est pas le Fils. Le Fils l'a rendu possible. C'est l'Esprit qui vient le faire en moi. C'est en particulier le rôle du Saint-Esprit de nous régénérer ou de nous donner une nouvelle vie spirituelle, de nous sanctifier aussi toute la transformation et de nous équiper en vue du service. Donc, les trois personnes de la Trinité ont des rôles particuliers à l'intérieur de la Trinité. D'accord? Et au fur et à mesure que je grandis dans ma théologie, ça devrait transparaître dans mon adoration. Ça devrait transparaître dans ma prière. Ça devrait transparaître dans ma louange. Ça va changer des choses dans le courage que je vais avoir dans chaque journée. Me sentir compris par le Père dans certaines circonstances, c'est une grâce. Puis dans d'autres circonstances, c'est de me sentir compris par le Fils. Parce que le Père, c'est mon protecteur. Le Fils, c'est celui qui a souffert comme moi, qui le sait. Lui, il sait ce que c'est d'avoir quelqu'un, d'avoir Satan qui vient à ton oreille, te chuchoter, de le suivre dans le péché. Le Fils, c'est ça, il l'a expérimenté. D'accord? On va s'arrêter ici. Moi, je vais vous demander de faire quelque chose parce que je veux le terminer. J'ai coupé un petit peu là, sur le cours. Il nous reste juste un petit bout à voir. On va le faire la semaine prochaine. Mais je trouve que les graphiques nous aident à comme bien terminer de saisir cette doctrine-là. Alors, faites juste regarder les notes. La semaine prochaine, je termine ça puis on passe à l'autre leçon. On devrait être bon. Puis je vais continuer à le faire un peu comme ça. Je sais qu'il y en a peut-être là, qui ont tendance à décrocher si je suis un peu plus magistral, là. Je le vois dans certaines paupières, mais je pense que ça permet quand même de couvrir plus de matière. D'accord? J'essaierai de garder un peu de place pour répondre aussi à des questions quand même. Alors, je vous remercie.